Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Karim Amelal, écrivain, enseignant à Sciences Po et auteur d'un rapport remis au Premier ministre pour renforcer la lutte contre le racisme et l'antisémitisme sur Internet. Vous avez également publié un livre, La révolution de la servitude, pourquoi l'ubérisation est l'ennemi du progrès social, aux éditions Démopolis. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Karim Amelal, ces deux sujets sur lesquels vous avez planché ces derniers mois prennent un relief particulier après la crise des Gilets jaunes, une crise qu'on vit encore. Une grande partie des Gilets jaunes a dénoncé les effets de la mondialisation sur les personnes les plus fragiles. Mais on a vu aussi se multiplier des propos haineux, racistes, islamophobes ou antisémites à l'occasion de cette crise. Parlons d'abord des Gilets jaunes. Comment analysez-vous ce vaste mouvement qui a failli déstabiliser la République ?
Merci de votre invitation, cher Loïc. Ravi d'être ici chez Pluriel. Écoutez, j'analyse ce mouvement comme une contestation de grande ampleur qui a des racines profondes dans notre pays. C'est pas quelque chose qui est né d'hier. C'est quelque chose qui est en germe depuis des décennies finalement et qui, sur le plan économique, dénote ce que vous évoquiez parmi beaucoup d'autres choses. Mais j'y vois effectivement l'illustration d'une disjonction, d'un décalage entre la situation économique ressentie, perçue, c'est très important, par un certain nombre de personnes en France, qu'on appelle la classe moyenne notamment. Donc c'est cet entre-deux, c'est pas les gens qui sont très riches et c'est pas les gens qui sont très pauvres, c'est ceux qui se débattent un petit peu au milieu et qui ressentent leur situation comme se détériorant depuis un certain nombre d'années, et en même temps des tendances macroéconomiques lourdes qui relèvent de ce qu'on appelle la globalisation ou la mondialisation, dont Internet est un amplificateur, un accélérateur extrêmement important. Le livre que j'ai écrit sur l'ubérisation, ce qu'on appelle l'ubérisation, c'est-à-dire une économie de plateforme, une économie d'intermédiation, qui a des conséquences très très lourdes sur le monde du travail en particulier, et qui accroît la précarité, on appelle ça le précariat d'ailleurs, une économie de petites mains, très immatérielle, de petites mains et de petits sous en réalité, illustre cette disjonction. C'est-à-dire que il y a des tendances lourdes face auxquelles les États sont assez désemparés. Le numérique, une économie globalisée qui repose sur des GAFA, ce qu'on appelle les GAFA, Google, Amazon, des giga-entreprises dont on a même du mal à les imposer, à leur extorquer quelques sous qu'ils nous doivent dès lors qu'ils font un chiffre d'affaires en France. C'est un sujet, mais c'est un sujet très important. Et puis, d'un autre côté, eh bien, des travailleurs qui se retrouvent désemparés et qui ressentent une aggravation de leur niveau de vie, de leur pouvoir d'achat, de leur situation relative.
Karim Amelal, à plusieurs reprises, vous avez parlé du ressenti de cette classe moyenne française. Pourquoi c'est important, selon vous, d'insister sur ce ressenti ?
C'est très important parce que il y a un professeur d'Harvard qui vient de sortir un bouquin important sur ce sujet récemment, parce que dans les pays, dans les économies industrialisées, occidentales, dont la France fait partie, en réalité, quand on regarde la quasi-totalité des indicateurs de vie, de développement, l'espérance de vie, la santé, le taux de mortalité, le taux de natalité, pas le pouvoir d'achat, mais le niveau de confort. Par exemple, le fait que beaucoup de gens aujourd'hui, la plupart des gens même, partent en vacances, peuvent partir en vacances. Pas tous, hein. Il y a beaucoup de pauvreté, c'est un autre sujet, mais c'est pas les gilets jaunes forcément. Bref, tous les indicateurs traduisent une élévation du niveau de vie, c'est-à-dire, très simplement, qu'on vit aujourd'hui beaucoup mieux évidemment qu'en 1950 et qu'a fortiori en 1885. Bon, pourtant, les gens ne le ressentent pas de cette manière. Ils ressentent une dégradation de leurs conditions de vie, de leur niveau de vie, de leur pouvoir d'achat, ce qu'on appelle le pouvoir d'achat, ce qu'ils ont la faculté, la capacité d'acheter eu égard aux revenus qu'ils engrangent. Et donc, il y a là quelque chose de très inquiétant, une décorrélation entre des indicateurs qui sont des indicateurs réels, dire la situation réelle de la France aujourd'hui, de l'Italie, des États-Unis, etc., et ce que les gens perçoivent. Ça traduit une inquiétude. Une inquiétude, et là encore, ça renvoie à ce qu'on appelle l'ubérisation, les plateformes, les GAFA, Google, les données, etc. Une inquiétude par rapport à un monde qui bouge, qui avance, qui remue extrêmement vite. Des menaces, c'est pas que ces menaces sont amplifiées, j'oserais dire en valeur absolue, c'est juste qu'on les perçoit beaucoup plus vite, l'effet des médias, l'effet des réseaux sociaux, beaucoup plus fortement, beaucoup plus puissamment, et que le niveau d'inquiétude s'est élevé ces dernières années de façon décorrélée de, pas dire de la réalité, mais en tout cas de ces indicateurs dont je parlais. La santé, l'éducation, l'accès au le bac, l'accès aux grandes écoles, l'accès à l'éducation supérieure, l'enseignement supérieur, etc. Toutes ces choses-là, si on compare avec il y a 50 ans, la situation qui prévalait il y a 50 ans, ça va beaucoup mieux. Pourtant, pour beaucoup de gens, et c'est le cas des Gilets jaunes, on a l'impression d'être perdu. Le réchauffement climatique, la menace climatique, etc., etc. Juste un élément sur la fiscalité qui est très important. Et qui traduit aussi cette espèce de bouleversement des consciences, mais qui oublie l'histoire en réalité. Ça arrive souvent, mais il faut le relever. Les taux de fiscalité dans l'Amérique, par exemple, des années 80, avant l'arrivée de Reagan, des années 70, mais aussi en France, étaient beaucoup... peut-être pas deux fois, mais beaucoup, beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. Pourtant, vous demandez à n'importe qui aujourd'hui dans la rue, ah oui, est-ce qu'on paye trop d'impôts, etc., beaucoup d'impôts, tout le monde va vous dire, mais oui, bien sûr, et tout de suite, on en paye beaucoup plus qu'il y a des années, ça ne cesse d'augmenter. Ce sont des illusions d'optique, des biais cognitifs, et par rapport à ça, il est vrai que Internet, dans sa pluralité de dimensions joue un rôle tout à fait structurant.
Alors, dans votre livre, vous dénoncez l'ubérisation en expliquant qu'elle va à l'encontre du progrès social. Je continue sur la question des Gilets jaunes. Dans le non-consentement à l'impôt, il y a aussi le ressenti sur la régression en termes de services publics. Ça n'est pas une illusion d'optique. Il y a une génération qui a le sentiment qu'elle va être moins bien soignée que ses parents, que l'école ne sera pas aussi performante que l'école des parents.
Vous le dites, c'est un sentiment. Ce sentiment, il est avéré, il faut évidemment le prendre en compte. Il découle de ce que j'évoquais, c'est-à-dire des grandes tendances économiques liées au bouleversement du monde, sur le numérique par exemple, mais sur plein d'autres éléments. La transition écologique, réchauffement climatique, qui sont à l'origine, hein, on s'en souvient du déclenchement des Gilets jaunes d'une certaine manière. Mais c'est aussi lié, et ça fait écho à ce que je raconte dans ce livre, à des politiques qui ont été conduites, à des politiques qui ont oublié en réalité, peut-être un peu les gens, c'est tout à fait clair, mais qui ont oublié, contrairement à ce qu'elles... prétendait faire ou faisait croire, de corriger des effets pervers de ces grandes tendances. C'est la question de la régulation. Les politiques qui ont été menées, alors pour tout un tas de raisons, c'est pas du tout par volonté de mal faire, c'est pas du tout par volonté d'escroquer les gens, c'est pas du tout par incompétence, je pense pas. C'est peut-être par conformisme intellectuel, peut-être par facilité, peut-être aussi, c'est ce que les Italiens appellent souvent l'impossibilisme, c'est-à-dire le fait que quand on arrive au pouvoir, plus rien, plus aucun des rêves qu'on prétendait mettre en œuvre lors de la campagne n'est encore possible. C'est ce que on appelait du temps de Mitterrand l'épreuve du réel, avec le tournant de la rigueur, justement. Et il y a tout ça qui fait que les politiques qui ont été conduites, on s'en rend compte, le rapport d'Oxfam vient de sortir sur les inégalités, ont eu tendance à accroître ou à laisser filer des cycles d'inégalités par défaut de régulation en particulier, et l'exemple du numérique et des GAFA et de ce qu'on appelle l'ubérisation et je crois illustre assez bien ça.
Alors Karim Amelal, votre livre La révolution de la servitude décrit le mécanisme de l'ubérisation qui est en train de changer notre rapport au travail, notre rapport à la consommation. Le sujet en tant que tel ne s'impose pas véritablement dans le débat national, alors que finalement nous sommes tous concernés par cette révolution. Vous regrettez que ce sujet ne s'impose pas pour l'instant ?
Il s'impose pas du tout, vous avez raison. Et de façon générale, le numérique et tout ce qui touche au numérique sur le plan intellectuel, sur le plan conceptuel, n'intéresse pas beaucoup les gens. J'y vois plusieurs raisons. La première, c'est que on a encore cette idée en tête que ce qui se passe sur Internet, pour le dire très simplement, est quelque chose de secondaire, c'est-à-dire est pas très grave. Et vous le disiez en introduction, par rapport à la mission que m'a confiée le président de la République sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, sur la haine, hein, de façon générale, sur Internet, que j'ai conduite avec mes collègues Gilles Taïeb et Laetitia Avia, c'est un peu la même histoire. C'est-à-dire que, bon, vous pouvez dire sale juif, sale arabe, sale je sais pas quoi sur Internet, c'est sur Internet, c'est sur Twitter, c'est sur les réseaux sociaux, on s'en fiche un petit peu. Et on a aussi cette impression par rapport à l'ubérisation, c'est-à-dire que par rapport aux plateformes en réalité, parce que ce sont des plateformes, Uber, Airbnb, que bon bah c'est l'économie virtuelle, c'est du virtuel, ça n'est pas du réel, c'est une erreur. Cette économie-là, de même que les discours de haine qui sont en ligne, c'est du réel. Internet aujourd'hui, c'est notre vie. J'y vois aussi une deuxième raison, c'est que nous ne maîtrisons pas suffisamment, non pas simplement les applis et le smartphone et le fait de jouer avec et d'aller sur Facebook, mais ce qu'il y a derrière. Nous ne maîtrisons pas les tenants et les aboutissants de l'économie numérique, ce que c'est qu'un algorithme, ce que ça veut dire, et par conséquent, nous n'avons pas conscience, c'est le cas avec la RGPD par exemple sur les données, nous n'avons pas conscience de ce qui se passe derrière le rideau.
Alors justement, Karim Amelal, dans ce livre, vous revenez sur la définition de l'économie du partage qui détruit notre modèle social, et vous n'hésitez pas à parler de capitalisme radical. La société que vous nous décrivez, c'est un peu l'envers du décor. Et ce qui est important, c'est que ce capitalisme radical a autant besoin de clients que de travailleurs acceptant la dégradation de leurs conditions de travail, acceptant ou se résignant.
Exactement. Alors, économie de partage, pas correction, mais un petit bémol par rapport à cette terminologie. En fait, l'économie du partage, c'est quelque chose de très bien, c'est Wikipédia en réalité. C'est-à-dire que il n'y a pas forcément de modèle économique, on a tous accès à un bien ou un service et on le partage. Et on peut imaginer des modèles économiques reposant sur le partage. En réalité, c'est les plateformes dont je parle, qu'il faut nommer, hein, Uber, Airbnb pour le logement, Deliveroo, Foodora pour la livraison de services gastronomiques, enfin de nourriture à domicile, ça n'a rien à voir avec l'économie du partage. C'est une économie de prédation. Ce sont des plateformes prédatrices qui n'ont rien à voir avec notre modèle social et, comme je le dis dans le titre, qui sont même les ennemis du progrès social. Et effectivement, ces plateformes-là, ce sont des plateformes d'intermédiation, c'est-à-dire que pour fonctionner, elles n'ont pas besoin d'avoir des cadres intermédiaires, d'avoir des gens qui sont salariés, qui sont protégés. Non, elle a besoin d'avoir, je vais le dire très franchement, elle a besoin d'avoir des consommateurs d'un côté, des clients qui achètent, et il faut leur offrir le meilleur service possible avec les applis, des algos qui fonctionnent bien, du marketing, etc. Et des esclaves. c'est-à-dire des gens qui vendent leur force de travail parce qu'ils n'ont pas le choix ou parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, effectivement, et qu'ils la vendent, leur force de travail, à vil prix, sans aucune protection. Et ce qui est incroyable, c'est que si on était, pas être, mais si on était au Bangladesh ou dans un pays qui n'a pas connu nos avancées sur le plan du progrès social, qui malheureusement où les travailleurs ne sont pas aussi bien protégés qu'en France ou qu'en Allemagne, on pourrait se dire bon bah on, d'accord, ok, on est habitué à ça, ce serait inacceptable, mais bon, mais on est en France. On est en France. Et cette économie-là n'est plus acceptable, n'est pas acceptable.
Avec un paradoxe, c'est que nous sommes à la fois des utilisateurs et des citoyens. Alors, c'est toujours difficile de faire la part des choses. Le consommateur est très content de bénéficier de ces services nouveaux. Et en même temps, le citoyen constate que c'est la précarisation de millions de personnes.
Oui, bien sûr, Loïc. Sauf qu'il ne le constate pas forcément, justement. C'est-à-dire que, vous le disiez précédemment, on nous parlait du fait que cette histoire d'ubérisation et les ravages que ça produit, et le numérique, tout ça, n'est pas ancré dans le débat public. Les gens pas, précisément, les citoyens n'ont pas forcément conscience de ça. Ils se comportent comme des consommateurs. Mais, j'ajoute quelque chose de très important, c'est que si nous n'avons pas forcément conscience de ça, c'est précisément parce que les plateformes nous font croire qu'il en va autrement, qu'elles se comportent extrêmement bien, qu'elles offrent un service formidable, qu'elles se conforment à toutes les règles, mais il n'en est rien.
Alors, il y a deux sociétés, Karim Amelal, que vous évoquez dans le livre et qui sont assez peu connues en France, TaskRabbit et Upwork. Que proposent-elles et en quoi sont-elles des exemples effrayants de cette ubérisation ?
Ce sont des plateformes de micro-jobbing, de micro-travail. Elles reposent sur le principe qu'il y a des gens qui, justement, non seulement ne gagnent pas assez d'argent, mais n'ont pas eu égard à leurs compétences, à leur formation sur le marché du travail normal, les moyens de gagner plus d'argent. Et donc, partant de ce principe-là, elles offrent à ces travailleurs-là la possibilité de gagner extrêmement peu en faisant des tâches répétitives, des tâches de type robotisé, hein, c'est une forme de robotisation de l'humain, qui bénéficie à des consommateurs, pas vraiment, mais surtout à des entreprises qui ont besoin de ce type de service et qui sont prêtes à le payer, mais à le payer pas très cher. Alors, un exemple, la collecte de données. Il s'agit, je ne sais pas, pour une boîte qui fait du marketing, de savoir, je dis n'importe quoi, mais combien il y a de photos qui représentent ou qui comportent un cheval dans tous les catalogues sur l'équitation ou sur je ne sais quoi qui sont sortis ces 10 dernières années. Bon, c'est ce qu'on met, c'est la commande qui est passée sur une plateforme de micro-jobbing. Eh bien, il y a des gens derrière qui ne sont pas assez protégés, qui ne gagnent pas assez d'argent, qui vont se dire c'est un travail horrible, mais tant pis, je vais le faire parce que je n'ai pas le choix, et qui vont être payés pour ce travail, en dessous évidemment des minima légaux, sans aucune protection.
Alors vous rappelez, Karim Amelal, qu'un auto-entrepreneur ne bénéficie pas de congés payés, il n'a pas d'allocation chômage et a une retraite au rabais. Est-ce que finalement l'une des plus grandes arnaques de ces dernières années, ça n'est pas ce statut d'auto-entrepreneur ?
C'est un statut qu'il faut réformer, et c'était d'ailleurs l'idée du président de la République, j'espère qu'il ne l'a pas oublié. C'est un statut qui est inique en réalité, parce que, et c'est très souvent ça avec le numérique, avec les plateformes dont on parle, on a l'impression que ça offre beaucoup de liberté, beaucoup de souplesse, et c'est cool, la liberté, la souplesse, on y aspire tous. En réalité, ce qu'on ne voit pas, ou ce dont on n'a pas forcément conscience en s'engageant dans cette voie, eh bien, c'est qu'il y a un prix à payer, et que ce prix, il est très élevé, c'est la renonciation, le renoncement à des droits sociaux garantis par l'État, qui ont été conquis de haute lutte depuis très 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 longtemps, par exemple les congés payés, vous le disiez, par exemple la retraite, par exemple l'assurance chômage.
Congés maternité.
Évidemment, qui sont des droits sociaux élémentaires. Ce qui traduit sur la question de la citoyenneté quelque chose de très important et de très inquiétant. Ça fait écho à la fiscalité aussi d'ailleurs, c'est que le contrat social, bon, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Les droits, les devoirs, même les droits finalement, les droits sociaux qui datent de la Troisième République, qui font partie des avancées les plus importantes de notre démocratie. Beaucoup de gens aujourd'hui les ont oubliés. Et évidemment, en particulier les plus faibles et les plus vulnérables. C'est pour ça qu'il faut beaucoup plus de régulation, il faut que l'État s'empare de ce sujet-là.
L'invité de Pluriel est Karim Amela, l'écrivain enseignant à Sciences Po, auteur d'un rapport remis au Premier ministre pour renforcer la lutte contre le racisme et l'antisémitisme sur Internet. Je rappelle que vous avez publié également un livre, La révolution de la servitude, pourquoi l'ubérisation est l'ennemi du progrès social, aux éditions Démopolis. On se retrouve dans quelques instants.
Pluriel, animé par Loïc Barrière.
Retour sur le plateau de Pluriel. Nous sommes toujours en compagnie de Karim Amela, l'écrivain enseignant à Sciences Po, auteur d'un rapport remis au Premier ministre pour renforcer la lutte contre le racisme et l'antisémitisme sur Internet. Vous avez publié également un livre qui s'appelle « La révolution de la servitude, pourquoi l'ubérisation est l'ennemi du progrès social » aux éditions Démopolis. Alors on a parlé tout à l'heure des conditions de travail de plus en plus précaires pour les auto-entrepreneurs qui travaillent pour ces plateformes. Je me rappelle que vous avez publié un livre sur les discriminations en 2005. C'était l'année des révoltes dans les quartiers populaires. Est-ce que vous diriez que les personnes finalement les plus victimes de ce système aujourd'hui sont peut-être les gens issus des quartiers populaires qui travaillent pour ces plateformes?
Vous avez raison, Uber est un bon exemple de ça, puisque, et on le cite d'ailleurs paradoxalement souvent en exemple en disant « Ah oui, c'est l'un des plus gros recruteurs du 93 ». C'est vrai, beaucoup de gens issus de l'immigration, des jeunes, des jeunes sans formation, souvent, ou en reconversion, sont chauffeurs Uber. Et je crois que c'est un peu en train de changer. On a eu ces dernières années, en particulier quand Uber est arrivé en France, le sentiment que c'était un système extraordinaire qui offrait tous les avantages. Aujourd'hui, beaucoup déchantent un peu parce qu'ils se rendent compte tout simplement de l'envers du décor. C'est-à-dire que rouler dans une voiture 70 heures par semaine, 80 heures par semaine, c'était pas forcément le modèle idéal pour gagner en réalité des clopinettes quand vous rapportez ce que beaucoup de gens oublient de faire, quand vous rapporter la rémunération engrangée, les revenus engrangés, une fois défalquées les charges qu'il faut payer, au temps de travail.
Vous nous montrez qu'il ne gagne absolument pas 3 500 euros net par mois.
C'est un calcul qui est extrêmement simple à faire. Quand vous travaillez 80 heures par semaine et que vous avez un revenu de 4 000, 5 000 euros, en réalité, vous avez parfois une rémunération, et bien souvent même, qui est inférieure au SMIC horaire. Et du fait même du marketing de ces plateformes et de ce principe de liberté qui est servi sur un plateau, beaucoup de gens ont dit l'impression que c'est quelque chose qui est formidable, mais ça n'est pas le cas. Donc oui, il y a une sorte de d'illusion d'optique par rapport à ces plateformes, même si ça change, parce que beaucoup de travailleurs qui s'engagent dans cette voie, c'est le cas par exemple avec la livraison de nourriture à domicile, Deliveroo, etc. Vous savez que beaucoup de livreurs font ça à vélo, avec des risques incroyables. Imaginez-vous,
Notamment sous la pluie, où on les incite à travailler par contre de pluie.
Vous êtes consommateur, c'est génial, vous avez une appli, vous n'avez rien à bouffer le soir, vous n'avez pas envie, il fait moins 5 comme aujourd'hui, vous n'avez pas envie de descendre dans la rue le soir, paf, vous appelez, vous commandez un truc, c'est génial, un hamburger et compagnie. Vous voyez un type qui arrive, qui est effectivement la plupart du temps issu de l'immigration, effectivement, qui s'est tapé 30 minutes, 40 minutes, 20 minutes, peu importe, en vélo. On est à Paris, avec des risques en termes de circulation qui sont absolument considérables. Vous avez vu sans doute rouler, comme moi, des livreurs à vélo qui sont obligés de prendre tous les risques parce qu'ils sont payés à la tâche, en réalité. Ils sont payés à la tâche, c'est-à-dire qu'ils doivent faire un maximum de courses dans un minimum de temps.
Alors que tous les salariés sont payés à l'heure.
Exactement, évidemment. Ils sont payés à l'heure, avec des protections.
C'est pour ça que vous dites que c'est un retour au 19e siècle. Vous citez Germinal d'Émile Zola.
C'est, de mon point de vue, et on parlait de l'exemple des livreurs à vélo, peut-être même pire en réalité. Et c'est inacceptable, encore une fois, dans un pays comme la France où il y a des droits sociaux, où les travailleurs ont des droits et ont vocation à être protégés contre tous les risques majeurs et en particulier les risques du travail.
Alors, quelle serait la solution, Karim Amelal, pour lutter contre ces plateformes du type Uber ? On est à 4 mois des élections européennes. Est-ce que ça ne devrait pas être l'un des sujets majeurs de cette élection européenne ?
Que faire ? Il y a un seul mot, hein, c'est régulation. Il faut réguler ces plateformes. Le secteur du numérique, on le voit bien avec le débat sur la fiscalité des GAFA aujourd'hui, en ce moment, est illustratif de ça. Le numérique est très peu régulé, est un secteur très peu régulé, dont beaucoup d'acteurs, ceux qu'on a cités, Uber, Airbnb, etc., échappent en très grande partie aux règles qui incombent aux entreprises normales dans nos pays. Vous citiez l'Union européenne, c'est un système et c'est un ensemble très protecteur pour les travailleurs, il ne faut pas l'oublier, aussi pour les entreprises d'ailleurs. Donc, il est urgent et indispensable de réguler cette plateforme. Réguler, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire en sorte que l'ensemble des acteurs économiques dans le secteur du numérique appliquent la réglementation, appliquent les droits, appliquent les lois qui existent, respectent l'ensemble des droits des travailleurs. Évidemment, ça doit se faire idéalement à l'échelle européenne, comme pour la taxation des GAFA. Si on n'arrive pas à le faire à l'échelle européenne parce que l'on sait qu'il y a des pays qui sont réfractaires parce qu'ils en bénéficient, l'Irlande, les Pays-Bas, toujours les mêmes, eh bien, on doit le faire au niveau national. Il faut que l'État reprenne la main, l'État, le Parlement, reprenne la main sur ce sujet. Nous ne pouvons pas continuer à avoir des plateformes qui se comportent comme dans une jungle.
Alors, Karim Amelal, j'aimerais qu'on évoque à présent la question du racisme sur les réseaux sociaux. Il y a quelques mois, à la demande du président Macron, vous avez rendu un rapport au Premier ministre qui dresse un tableau de cette haine en ligne et vous proposez également des solutions. Ce rapport a été remis avant la crise des Gilets jaunes. À la faveur de ce mouvement social, on a vu se multiplier des messages racistes, même s'ils sont minoritaires par rapport à l'ensemble des revendications sociales. Vous avez été surpris de voir que cette crise s'accompagne parfois de messages racistes.
Oh, pas du tout surpris. Internet, les réseaux sociaux, en particulier, certains plus que d'autres, sont une caisse de résonance des débats de société. Mais du fait de l'anonymat, par exemple, de la haine qui existe dans notre société, mais qui ne se voit pas forcément et qui en revanche explose dès lors que on peut tout dire parce qu'on est anonyme. Quand on se retranche derrière un pseudo, évidemment, c'est plus facile de laisser libre cours à ses pires instincts, en réalité. Et la haine en ligne, qui est un véritable fléau, renvoie aussi à ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire l'absence de régulation. Le fait que la loi, en France, n'est pas respecté sur les réseaux sociaux. Il n'est pas respecté par les réseaux sociaux.
Il faut le rappeler, le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit.
Bien sûr.
Passible d'une condamnation. Comment se fait-il finalement qu'on n'ait pas trouvé la solution ?
D'abord, il faut dire que la haine en ligne, c'est un problème qui concerne tout le monde, qui concerne les personnes qui ont une orientation sexuelle particulière. Ça concerne les gens en vertu de leur origine, en vertu de leur religion, de leur appartenance religieuse ou non-appartenance religieuse. Tout ça, ça découle d'une loi très très ancienne, c'est pas nouveau. C'est la loi de 1881 qui a un spectre très très large. Toutes les victimes d'incitation, selon sa terminologie, d'incitation à la haine, tombent sous le coup de cette loi. Donc c'est une loi très ancienne et c'est une loi qui n'est pas respectée sur Internet. C'est comme si vous aviez, place de la République à Paris, des gens qui commençaient à hurler « sale arabe, je vais te tuer »,« sale musulman, sale juif », etc., etc. C'est illégal. Les gens peuvent être condamnés pour ça, la justice est là pour ça, vous pouvez porter plainte et beaucoup de gens le font. Et dans la vraie vie, nous ne tolérons pas ça. Pourquoi devrions-nous le tolérer sur Internet ? C'est intolérable de la même manière.
La législation a été adaptée pour lutter contre les contenus pédophiles, puis on s'est attaqué à l'apologie du terrorisme. C'est finalement ce qu'il faut faire, adapter la législation à cette haine.
Exactement, Loïc, ça a été fait pour d'autres contenus que vous évoquiez, pédopornographiques et terroristes. Il faut faire en sorte que la loi française soit appliquée aussi sur Internet et par les réseaux sociaux. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut censurer tout le monde. Il n'y a pas de rétablissement de la censure. La liberté d'expression est une liberté fondamentale. Et les contenus haineux, ce sont des contenus qui sont parfois, souvent, difficiles à apprécier. C'est pour ça, d'ailleurs, que le rôle du juge est tout à fait essentiel et qu'il doit être maintenu. Mais il faut faire en sorte, et c'est ce qu'on propose dans ce rapport, que les plateformes, conformément à la loi, qui est très ancienne, comme on le disait, puissent faire le ménage et retirer au moins, dans un délai acceptable, raisonnable, un délai court, des contenus qui sont manifestement, explicitement illégaux. Illégaux parce que racistes, parce que antisémites, parce que anti-musulmans, anti-migrants, anti-que sais-je encore, bref, qui sont contraires à la loi. Ce sont des contenus illégaux. Donc il faut que les plateformes puissent faire le ménage dans ces contenus-là. Faut qu'elles aient des obligations de transparence, faut qu'elles expliquent ce qu'elles font. Il faut pouvoir les contraindre, c'est-à-dire que si elles font pas ce travail-là, si elles n'appliquent pas la loi, il faut pouvoir les sanctionner.
À travers des amendes dissuasives ?
À travers des amendes, les Allemands l'ont fait l'année dernière avec une loi qui est en cours d'évaluation, qui prévoit des amendes très très fortes. Il faut qu'on puisse, comme sur la fiscalité, comme sur l'ubérisation, parvenir à faire respecter la loi à des acteurs numériques, aussi puissants soient-ils, tout en respectant bien sûr la liberté d'expression de chacun, qui est une liberté fondamentale. Et puis il faut très rapidement rappeler aussi le rôle de l'éducation, de l'éveil du sens critique par rapport au contenu haineux, mais par rapport à ce qu'on appelle les fake news, les fausses informations, bref, par rapport à ces bulles de haine, de désinformation, de manipulation qui nous submerge via Internet et en particulier, il ne faut pas l'oublier, en particulier les plus vulnérables, c'est-à-dire les plus jeunes, c'est-à-dire les enfants. C'est le problème des écrans, c'est le problème de la surexposition aux écrans, etc.
Il faut aussi faciliter la possibilité de porter plainte, c'est encore un peu compliqué.
Oui, bien sûr, il faut pouvoir le faire en ligne. Là aussi, quand on est confronté à une attaque haineuse, illégal, sur Twitter par exemple, il faut non seulement avoir la possibilité de signaler ces contenus, d'où notre proposition sur l'uniformisation des modalités de signalement trans-plateforme, mais il faut aussi, comme vous le disiez, avoir la possibilité de porter plainte en ligne, et pas en allant au commissariat, dont on peut imaginer ce que les pauvres policiers submergés vont nous dire quand on va arriver avec un tweet en disant « voilà, j'ai été victime de ça sur Internet ».
Alors Karim Amela, le président de la République vous a commandé ce rapport, vous avez fait un certain nombre de recommandations. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Alors, nous avons rendu notre rapport au Premier ministre en septembre. Les propositions qu'on a faites ont été, ont été particulièrement bien accueillis par le Premier ministre et par le gouvernement. Il est prévu qu'elle soit mise en œuvre et qu'elle fasse l'objet d'une loi cette année, en 2019, sur une régulation plus forte des contenus, des plateformes pour réduire l'intensité de la haine. Bien sûr qu'on ne pourra pas faire disparaître du jour au lendemain les contenus haineux, ce serait absurde de prétendre le contraire. Le but, c'est de réduire l'intensité de la haine, de faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer comme il l'entend et livrer n'importe quelle opinion. C'est normal, ça relève de la liberté d'expression, mais on ne peut pas insulter les gens, injurier les gens sur le fondement de, par exemple, leur origine ethnique ou leur appartenance religieuse.
Au-delà du racisme, de l'antisémitisme, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur la haine qui est en train de s'exprimer, notamment à l'encontre du président Macron, à l'encontre des syndicats, à l'encontre des journalistes? Comment vous l'analysez, cette montée de la haine?
La haine se métamorphose évidemment beaucoup. Elle fait écho à des préoccupations, ou elle manifeste plus exactement des préoccupations, des inquiétudes qui sont exprimées de façon intolérable sur les réseaux sociaux du fait justement de l'anonymat, de dynamiques haineuses, ce qu'on appelle les raids par exemple, qui sont parfois dictées ou manipulées ou provoquées par, il faut pas l'oublier, des galaxies politiques, ce qu'on appelle la fachosphère par exemple, qui sont identifiées puissantes en progression depuis des années et qui sont amplifiées par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une caisse de résonance, une caisse de résonance de notre société, et c'est un amplificateur aussi. C'est bien d'ailleurs le problème de certains réseaux sociaux que d'accroître la viralité de certains contenus. Parfois c'est bien, parfois c'est pas très bien.
La difficulté aussi avec les fake news et le complotisme, c'est que parfois, ça n'est pas hors la loi.
Bah bien sûr, et quand c'est pas hors la loi, c'est une opinion, et chacun, les gens ont le droit d'être complotistes, hein. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. On peut ne pas être d'accord, on peut débattre, précisément. C'est ça qui est formidable aussi avec Internet et avec les réseaux sociaux. C'est que ce sont de merveilleux lieux de débat. En revanche, pour débattre dans une démocratie comme la nôtre, où il y a des droits, des devoirs, des principes, où la liberté d'expression est quelque chose de fondamental, de sacré dans notre constitution, eh bien, il faut pouvoir le faire en toute sérénité. Et débattre, ça ne veut pas dire, mais comme dans une conversation le dimanche en famille, ça ne veut pas dire s'injurier, ça ne veut pas dire se balancer des invectives à la figure, a fortiori lorsque celle-ci repose sur la race, ou l'origine ethnique, plus exactement, la religion, ou que sais-je encore. Donc on peut débattre, on ne peut pas s'insulter, s'injurier, dans la vraie vie, mais également sur Internet.
Le débat national initié par le président Macron, ça peut être un bon moyen de trouver une solution à la crise?
Oui, bien sûr. Je trouve que c'est très bien, cette consultation peut-être aurait pu d'ailleurs être engagée plus tôt, et plus tôt ça ne veut pas dire depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, ça veut dire aussi il y a bien plus longtemps en réalité. Les gens ont besoin de parler, ils ont besoin de s'exprimer. Ce que traduit aussi ces explosions de haine, effectivement, mais surtout ces explosions de débat, vous savez que les gilets jaunes, évidemment, sont nés sur Facebook, ou grâce à Facebook, plus exactement. Le mouvement vient aussi de là, et c'est a été catalysé par ce réseau social-là. Donc les gens, tous les gens, ont besoin de parler, ils ont besoin d'exprimer leurs revendications, leurs préoccupations, leurs inquiétudes, leurs angoisses. Et effectivement, en France, de même qu'il n'y a, à mon sens, pas suffisamment de contre-pouvoirs, il n'y a pas suffisamment d'espace de débat, d'expression, Et je crois que de ce point de vue, le grand débat est quelque chose, enfin, est une opportunité qu'il faut saisir, et il faut qu'il débouche sur quelque chose, sur des propositions, sur du concret, sinon les gens vont avoir l'impression d'être à nouveau pris pour des cruches, qui serait une terrible, terrible nouvelle et une terrible façon de procéder. Mais je suis vraiment très, très optimiste sur ce débat et sur cette consultation et sur toutes les consultations qu'on peut imaginer à l'avenir. Parce que la démocratie représentative, c'est aussi ça, le débat démocratique, c'est quelque chose qui est fondamental et sans doute qu'il n'y en a pas eu assez jusque-là. Et vous parliez des journalistes, les journalistes sont aussi des médiateurs et ils ont un rôle à jouer. C'est pour ça que s'attaquer aux journalistes, ça peut paraître bête de le dire, mais c'est fondamentalement s'attaquer à la démocratie, s'attaquer à notre capacité à débattre collectivement.
Merci Karim Amelal. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un rapport remis au Premier ministre pour renforcer la lutte contre le racisme et l'antisémitisme sur Internet. Et je renvoie également nos auditeurs à votre livre « La révolution de la servitude. Pourquoi l'ubérisation est l'ennemi du progrès social ?» C'est publié aux éditions Démopolis. Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.